Alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans Genèse chapitre 6, les versets 1 à 9. Genèse chapitre 6, versets 1 à 9. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Alors, on va prier, demander la bénédiction du Seigneur. Notre Dieu, nous sommes aujourd'hui assemblés en ton nom. Nous voulons chanter tes louanges, prier, avoir de la communion fraternelle avec nos frères et nos sœurs. Mais aussi, surtout, Seigneur, entendre ta sainte et glorieuse parole de manière, Seigneur, à ce qu'elle produise un effet dans nos cœurs, dans nos êtres, pour nous transformer, pour nous faire ressembler davantage à Jésus-Christ, ce qui est vraiment quelque chose de très élevé. Alors, Seigneur, il n'y a que ton esprit, ta force, ta puissance qui peut nous éclairer ce matin dans la compréhension du texte, des leçons qui y sont inscrites, et aussi, Seigneur, dans l'application que nous devrons faire de toutes ces choses-là dans nos vies, si on veut t'apporter honneur et gloire. C'est ce qu'on te demande par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, le titre que j'ai donné à la leçon ce matin, « Le comble de la dépravation humaine appelle un jugement divin ». Alors, on va regarder à l'intérieur de ça trois idées. La dépravation qui va être constatée par Dieu lui-même dans les versets 1 à 4. La dépravation qui va être condamnée dans les versets 5 à 7. Et la dépravation qui va être confrontée, comment le Seigneur va confronter tout cela. Alors, versets 8 et 9. Alors, notre passage nous révèle l'accroissement de la dépravité humaine au point que Dieu doit intervenir pour détruire ce qu'il a créé. Alors, il souligne deux choses, bien entendu, la tristesse de Dieu, parce qu'il dit que c'est une façon de s'exprimer. On va voir un peu tantôt comment on peut expliquer ces histoires de repentir et ces histoires de... On va voir des choses importantes concernant ces expressions-là, pour ne pas leur faire dire de ce que ça ne veut pas dire, et on va apprendre des choses importantes. Alors, et ça nous parle, bien sûr, non seulement de tristesse de Dieu, mais ça nous parle aussi de grâce. Parce que, bien sûr, il voit l'humanité, plusieurs auteurs considèrent qu'il était rendu plusieurs millions de personnes déjà à cette époque-là sur la Terre. On parle de plusieurs millions de personnes, et quand vous regardez la proportion à qui Dieu a accordé la grâce, Dieu a accordé la grâce uniquement à 8 personnes. Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs épouses. 8 personnes. Alors, quand on fait un petit calcul mathématique, 8 sur 2 millions, disons qu'on va prendre comme chiffre, là, c'est vraiment... il n'y a rien de sûr dans ça, mais du moins que 8 sur 2 millions, on ne peut pas dire que c'est une fraction qui est très grosse. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner là-dedans? Je pense qu'il veut nous enseigner la même chose que ce qu'il nous enseigne dans le Nouveau Testament. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est un passage qui a été particulièrement discuté à cause de certaines difficultés que le texte comprends. Et quelles sont ces difficultés-là? On va les regarder. La première, c'est qui sont les fils de Dieu du verset 2? Les érudits de la Bible, alors ça c'est des personnes qui connaissent la Bible, qui connaissent l'hébreu, qui sont capables de le traduire, etc. Les grands érudits, là. Moi, je suis pas de cette classe-là, là. Les grands érudits, reconnaissent que ce passage est l'un des plus difficiles à interpréter de l'Ancien Testament. Alors, moi je me dis, si eux ont de la difficulté, moi, qui suis-je pour essayer de comprendre vraiment? Alors, on va aller dans le sens de la majorité des plus conservateurs. Alors, le problème concerne l'identification des fils de Dieu. Parce que là-dedans, on va voir, on va regarder pourquoi j'ai dit probablement qu'on le couperait en deux. On va voir que, historiquement, les interprètes des Écritures ou les commentateurs ont eu des positions assez différentes concernant qui sont ces personnages-là. Est-ce que c'est des anges qui ont eu des relations sexuelles avec des femmes? Est-ce que c'est des rois? Est-ce que c'est... On va voir tantôt un peu plus dans les détails concernant ces affaires-là. Alors, s'agit-il d'anges déchus qui auraient eu des relations avec les filles des hommes? Est-ce qu'il s'agit tout simplement de la lignée de Seth? Seth, on sait que c'est la lignée par laquelle le Messie va venir. Autrement dit, est-ce que c'est l'idée que les fils de Dieu, autrement dit, c'était les croyants, le petit nombre de croyants de cette époque-là, qui ont commencé à avoir des relations avec des non-convertis? Il y en a qui ont choisi cette interprétation-là. Il y en a d'autres aussi qui voient que c'est fort probablement à cause des descriptions qui sont données des monarques ou des rois. On va voir que sont devenus les puissants de la terre. On va voir un peu comment chacun développe sa compréhension du passage. C'est important de regarder que des fois, moi j'aime bien l'auteur que je me suis servi, c'est un livre qu'on a acheté. Je me sers de lui comme auteur principal, mais je vais voir ailleurs aussi en même temps. C'est Evelson, c'était un président d'école biblique en Angleterre, à Londres, un baptiste. Et je me sers de son livre pour, dans le gros, là, pour trouver mes divisions, les affaires-là. Mais lui, il va un petit peu plus en profondeur pour essayer de nous faire comprendre comment les différents interprètes historiquement ont compris le passage. C'est important de le savoir parce que vous pourriez vous acheter un livre sur la Genèse où quelqu'un a adopté une position et que lui, autrement dit, est en train de balayer de la main tous ceux qui disent que c'est pas... Mais en tout cas, on va voir les difficultés. Peu importe la position qu'on prend, il y a des difficultés. Alors ça, c'est la première chose qu'on va avoir à regarder. Qui sont les enfants de Dieu qu'on parle dans le verset 2? Deuxièmement, la deuxième difficulté, on en a parlé un petit peu tantôt, c'est comment concilier les expressions « l'Éternel se repentit ». Parce que normalement, nous, quand on parle de repentance, on parle de personnes qui se détournent du péché, qui se tournent vers Dieu. Alors, est-ce que Dieu peut se repentir? Bien entendu, on pense que c'est les anthropomorphismes, et on va parler un petit peu plus des définitions de tout cela tantôt. Et quand il dit « il fut affligé dans son cœur », ça, c'est une autre affaire, on appelle ça des anthropopathismes, c'est de prêter à Dieu des sentiments, des émotions qui sont humaines, mais on va développer un petit peu plus tantôt. Alors, ça pose des difficultés, les deux mots, les deux expressions, l'Éternel se repentit, de quelle manière Dieu peut se repentir? Et l'autre, c'est Dieu est affligé dans son cœur. Parce que quand on fait des leçons de théologie, on se rend compte qu'on dit de Dieu qu'il est immuable. Donc, une personne immuable, c'est une personne qui ne change pas. Parce qu'une personne qui a des émotions, puis qui vient en colère, puis qui se calme, puis ça implique du changement. Mais on va voir pourquoi les Écritures utilisent des expressions telles que « Dieu se repentit » ou telles que « Dieu est affligé dans son cœur ». Parce que si on ne le fait pas, là, on se dit « C'est quoi ça, cette affaire-là? » Et ça va revenir dans le reste des Écritures. Alors, le premier principe pour expliquer ces choses-là, c'est toujours d'interpréter les choses à la lumière de ce que les Écritures ailleurs nous enseignent sur la personne de Dieu. Quand on a bien défini ce que c'est l'immuabilité de Dieu et qu'on rencontre des expressions telles que ceux-là, ben, à quelque part, il faut les interpréter à la lumière de l'ensemble du reste des enseignements des Écritures. Voyez-vous, c'est ça le principe de base pour bien interpréter les choses correctement. Sans ça, je me souviens que quelqu'un est venu me voir et était tout quasiment à l'envers, dire Dieu se repentit, Dieu change d'idée. Des fois, on est porté à penser que ça fait de Dieu presque un Dieu girouette qui tourne d'un bord, change d'idée. À quelque part, quand on étudie la doctrine des décrets, qu'on étudie la doctrine de la souveraineté, qu'on étudie la doctrine de l'immuabilité de Dieu, on se rend compte que c'est pas ça du tout. Alors, il faut apprendre à reconnaître les expressions quand elles sont dans le texte et à leur donner le sens que les Écritures veulent vraiment leur donner et non pas partir en déraper, là, faire dire des choses à Dieu. Dieu se repentir. Si on fait donner au mot repentance la même chose que dans le cas de la repentance de l'homme, et là, on dérape sérieusement. Alors, il faut vraiment comprendre ces choses-là. Et le texte nous fait aussi apprécier encore la fidélité de Dieu par le fait qu'il exécute sa promesse de Genèse 3.15. On avait parlé de Genèse 3.15 comme étant la prophétie que Dieu disait après la chute d'Adam et Ève, quelle façon il utiliserait pour sortir l'homme de son pétrin qui ne pouvait pas s'en sortir par lui-même. Il fallait que Dieu envoie le Messie. Alors ceux de l'Ancien Testament qui ont cru au Messie à venir étaient des croyants. Et ceux, à partir du moment que Christ est venu, nous, on croit au Christ venu. Alors, les croyants de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, on avait quelque chose en commun, la centralité de la personne de Christ et de son œuvre. Alors, Dieu nous montre la fidélité à l'intérieur de ça, parce que c'est un peu drôle, parce que Dieu regarde la situation, puis ils y sont tous pourris à l'os, toute la gang. Ça n'a plus de bon sens. Il décide de les détruire. Alors, ça aurait pu se terminer là et sa terre a dit, « J'ai gagné parce que... » Et Dieu dit, « Oh, je vais tout détruire les hommes parce qu'ils sont rendus méchants au point où il faut que j'intervienne personnellement pour les exterminer. » Mais Noé fait partie de la chaîne. Il y a une chaîne qui part de Genèse 3.15 et il y a plusieurs maillons. Parce que tout l'Ancien Testament, on parle de quand Christ est arrivé, il y avait déjà 4000 ans de passé. La promesse, ça a pris du temps avant qu'elle se réalise, qu'elle s'accomplisse, mais elle s'est accomplie. Alors, il faut voir dans le texte d'aujourd'hui un maillon de la promesse. Alors, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, etc., à travers toutes les... Et quand on arrive aussi dans les textes, dans Matthieu 1, dans Luc 3, où on nous parle des généalogies. Pourquoi les généalogies t'as donné? C'est pour nous montrer la fidélité de Dieu dans ce qu'il avait dit au début et que ça s'accomplit jusqu'à la fin. Alors là. Alors, on va regarder les versets 1 à 4 pour regarder comment Dieu voit la dépravité, comment il la constate, avec quels mots il utilise pour la constater. Alors, la première observation qu'on va faire, c'est concernant le verset 1. La dépravation est divinement constatée par le nombre croissant de pécheurs. Avez-vous déjà remarqué, on est tout seul, on pêche, mais dès qu'on met un autre pécheur en relation avec nous, la quantité de péché va augmenter. Parce que on dirait qu'on se stimule l'un l'autre au péché. Mais en 3, tu vas avoir encore plus de péché. Mais en 10, tu vas en avoir 10. Mais 100 hommes qui vivent ensemble, tu vas en avoir plus. Et 1 million, c'est la même chose. Alors, si on pense que les chiffres avancés sont à peu près exacts de plusieurs millions de personnes déjà à cette époque-là, vous mettez 2 millions de personnes ensemble qui ne sont pas régénérées, et on sait que le péché a tendance à toujours aller en s'empirant. Alors, c'était rendu là déjà, après pas tellement d'années. Alors, ça dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier. Est-ce que le Seigneur avait dit, il les avait demandé de multiplier? Croissez, multipliez. Et il l'avait réalisé. Cependant, ça nous dit, et que des filles leur furent nées. C'est sûr que fort probablement qu'il y avait des filles. Alors, mais ici, le Seigneur veut nous montrer que, oui, le commandement qu'il leur avait donné de se multiplier avait été fait par les hommes. Alors, ils ont commencé à se... C'est pas additionner, c'est multiplier. Quand on parle de multiplier quelque chose... Alors, les Écritures, en général, nous enseignent que le péché est contagieux. Alors, on le sait, c'est quoi être contagieux? À l'époque, il y avait des maladies contagieuses. Il y en a encore aujourd'hui. Des fois, quand on prend vraiment une bonne grippe, on se dit « Ah, j'irai pas avec une telle place ou à tel endroit aujourd'hui parce que je vais donner ça aux autres. » C'est contagieux. La lèpre, à l'époque, était contagieuse. Souvent, les Écritures utilisent la lèpre comme image pour montrer la laideur du péché. Alors, le péché, c'est contagieux. Dès que tu mets des pécheurs ensemble, ça va... Alors, et bien sûr, le nombre de péchés va augmenter avec le nombre de pécheurs. Mais deux personnes qui vivent ensemble, déjà, il y a du péché. Mais ajoute-y une troisième qui rentre dans le même logement, et tu vas voir que les difficultés se multiplient. C'est la réalité. Est-ce qu'il y a d'autres passages des Écritures qui nous disent que quand il y a plus d'hommes, il y a plus de péchés? Bien oui. Proverbe 29, verset 16. « Quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît, mais les justes contempleront leur chute. » Alors, les Écritures, alors ici, dans le verset 1 du Genèse 6, il y a eu une multiplication des hommes, donc une multiplication des pécheurs, donc multiplication du péché, enlisement, aggravation de l'état de péché. Le verset 1 nous fait prendre conscience de quelque chose, de l'unité organique de l'homme qui s'influence l'un et l'autre. On est dans une famille. Moi, j'étais privilégié, j'étais quand même dans une famille où c'était pas de la corruption totale. Il y avait des péchés, bien entendu, dans ma famille, comme dans beaucoup de familles. Mais je n'ai pas été dans une famille où la corruption... Disons que j'aurais été élevé, je sais pas, mon père aurait été un débauché, où mon père aurait été une personne qui aurait pris de la drogue, comme on dit, jusqu'aux oreilles, ben, j'aurais pas été le même gars. Parce que notre milieu nous influence. Alors ça nous fait prendre conscience que quand il y a multiplication des hommes, peu importe le milieu dans lequel on se trouve, que ce soit l'école, que ce soit le travail, que ce soit la famille, à quelque part, tout notre milieu contribue à nous influencer. Par exemple, disons que vous êtes un employé, vous travaillez pour un employeur qui est croche. Bien, où pensez-vous qu'il va vous emmener dans sa crocherie? Il a de l'autorité sur vous, il va vouloir faire des choses croches ou des choses malhonnêtes, et il va dire, bon là, ça ici, paye pas ça, ou paye ça, ou envoie un chèque ci, envoie un chèque, qui implique des malhonnêtetés. Alors, notre milieu nous influence pour que le péché croisse ou non. Alors, un patron pourri va amener une équipe pourrie. Un chef de famille corrompu va entraîner aussi toute sa famille dans sa corruption. Un milieu éducationnel permissif va attirer ses acteurs, les pédagogues et les élèves, dans le dérèglement. Pourquoi aujourd'hui vous pensez qu'il y a tant de chrétiens qui sortent leurs enfants des écoles publiques? C'est la contagion. Tu dis, je ne veux pas qu'il y ait là, parce que si je vais là, on commence à vouloir vendre de la drogue aux enfants à 8-9 ans aujourd'hui. Alors, si tu mets ton enfant dans une école publique, il y a des risques. C'est à toi de décider si tu veux le subir ou non. Alors, le verset 2, donc constaté dans le nombre croissant des pécheurs. Constaté aussi dans la convoitise sexuelle. Verset 2 nous parle de convoitise sexuelle. Elle dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Donc, autrement dit, l'idée est que les hommes ont commencé à regarder autour d'eux autres, puis ont dit, belle mademoiselle, ça a l'air. Ils se sont mis à vouloir les prendre uniquement en fonction de leur beauté physique Et ça l'a, bien entendu, amené le développement de la péché de la polygamie. Parce que quand tu dis, ils virent que les hommes étaient belles, ils en prirent pour femme, au pluriel. Donc, ça l'implique la polygamie. La polygamie a commencé à se développer. Ce que je vais faire, là, c'est qu'on va arrêter un petit peu, parce que je vais aller voir l'explication qu'on donne au... au verset 2, les fils de Dieu qui s'étaient. Alors, le monsieur Evison, que je me sers, qui a écrit un livre sur la Genèse, qui était publié par Europress, je pense qu'il y en a qui l'ont lu ici, au moins deux qui l'ont lu. C'est un excellent livre sur de commentaires sur la Genèse en français, dans une perspective réformée baptiste. Alors ici, dans son livre qui s'appelle « La Genèse, le livre des origines », Philip Evison, publié par Europress en 2007, à la page 126 à la page 128, nous donne un résumé des différentes interprétations, compréhensions de qui sont les fils de Dieu à l'intérieur. Alors, on va les regarder pour qu'on sache comment les hommes, même les hommes, les enfants de Dieu, ont compris ce passage-là au cours de l'histoire. Alors, il y a une interprétation qui est très ancienne, c'est celle que c'était des anges. On parle parce qu'il y a des passages, il y a d'autres passages dans les Écritures où on utilise l'expression « fils de Dieu » en parlant d'anges. Et là, on croit que ça serait fort probablement des unions sexuelles entre des anges déchus et des êtres humains qui auraient amené des géants. Alors ça, c'est une interprétation. Alors il dit, il nous parle concernant l'interprétation des anges, il nous dit « cette interprétation est très ancienne. Les mots « fils de Dieu » servent souvent à désigner des êtres surnaturels. » Là, il nous donne l'exemple de Job 1, verset 6, Job 38, verset 7. Il dit « dans cette optique, il s'agirait d'êtres angéliques qui auraient contracté des unions avec les fils, les filles des hommes. » Certains s'appuient sur 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, et Jude 6, pour justifier ce point de vue. Les savants libéraux voient dans ce récit un exemple évident de mythe dans la Genèse. Alors, pour les libéraux, le fait de voir ça, voyons donc, ça ne tient pas debout. Des démons qui ont des relations sexuelles. Alors, ils se servent de ça pour dire, voyons, ça ne tient aucunement debout. Alors, de nombreux évangéliques rejettent cette interprétation en acceptant l'autorité des paroles de Jésus, que les anges sont des créatures asexuées qui ne se marient ni se donnent en mariage. Matthieu 22, 30. Alors ici, je suis loin de rentrer dans les détails. Je vais juste vous donner une position qui a été défendue avec des versets. Alors, il y en a qui vont dans 2 Pierre, il y en a qui vont dans Jude, qui vont dans Job, pour démontrer, regarde, l'expression « fils de Dieu » parfois s'utilise pour les anges. Et après ça, dans Jude, on nous dit qu'il y a des anges qui ont tombé, et on développe toute une série de raisonnements qui ne sont pas nécessairement vrais, mais que, bon, ça expliquerait le passage. Une autre position, c'est que les fils de Dieu seraient, dans le passage, des chefs politiques. Alors, pour certains targums, alors des targums, c'est des anciennes paraphrases juives araméennes, donc autrement dit, ce que les juifs croyaient que ce passage-là voulait dire selon leurs savants de l'époque. Le mot « Elohim », vous savez, on vous l'avait déjà raconté, Elohim, c'est un mot qui veut dire Dieu, mais au pluriel. On avait dit dans une des leçons précédentes que Elohim, c'était plus probablement une allusion au Dieu trinitaire. Pas qu'il y ait plusieurs dieux. Alors, ça a été traduit différemment. Il y en a qui disent Dieu avec un D majuscule en sachant que ça fait référence au Dieu trinitaire, d'autres qui disent Dieu avec des petits dés et qui feraient référence à à des dirigeants politiques. Par exemple, on va aller en voir un, hein, pour voir que c'est pas. Psaume 82, les versets 1 et 6. Je me souviens que quand j'étais à Sherbrooke, il y a une femme avec qu'on avait tenté d'évangéliser. Elle nous avait arrivé avec ça, qu'elle voulait nous démontrer qu'on était tous des dieux. Et elle avait pris le psaume 82 pour nous essayer de nous convaincre qu'on était des dieux. Alors, voyez-vous, elle se basait sur le psaume 82. Ben oui, elle dit, regarde, c'est marqué dans la Bible. Puis elle prend le psaume 82. Alors, ça dit, psaume d'Azaph, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux avec un petit D, avec un X. Donc, Dieu juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Où elle se basait sur le verset 6 du psaume 82 pour dire, vous êtes des dieux. En parlant des êtres humains, vous êtes des dieux. Donc, elle se disait, moi, je suis un dieu. À quelque part, si tu ne sais pas comment expliquer ça, là, quelque part, tu as un problème. Là, tu dis, c'est quoi, comment j'explique ça aux gens? Dis, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Parce qu'à l'époque, c'était les rois qui étaient chargés d'administrer la justice au nom de Dieu. Donc, Dieu les considérait comme un petit peu des personnes qui exerçaient une autorité divine dans le domaine de la justice. Alors, ils considéraient les rois comme étant des instruments dans la main de Dieu pour exercer la justice. Alors, c'est ça qu'ils disaient, vous êtes des dieux, parce qu'il y avait un certain pouvoir d'exécuter la justice. Alors, dans le psaume 82, ou dans Exode 21, verset 6, les chefs politiques ont le sens de juge ou de chef qui amène un certain jugement dans la vie des hommes. Alors, les fils des Elohim seraient, selon certains interprètes, des hommes de rang élevé qui auraient pris des femmes. Alors, cette interprétation a regagné la faveur de certains milieux qui l'associent aux idées anciennes du Moyen-Orient sur la royauté de droit divin et les harems royaux. Mais cette opinion soulève une objection de taille. Si les princes sont parfois appelés dieux, avec un petit D et un X, l'Écriture ne les qualifie jamais de fils de Dieu au pluriel. Alors, voyez-vous, la première, avec les anges déchus qui ont uni avec des hommes, il y a des problèmes. La deuxième, celle-là aussi, il y a des problèmes. Et beaucoup d'interprètes, beaucoup de commentateurs, je dirais, conservateurs, vont prendre la lignée de Seth. Autrement dit, l'idée des fils de Dieu, c'est plus selon que les hommes qui faisaient partie des croyants de la lignée messianique, autrement dit, c'est comme un peu l'équivalent d'aujourd'hui, un croyant qui commencerait à se marier avec des femmes en polygamie et en ne tenant pas compte du fait qu'un croyant ne devrait pas se marier avec un incroyant. Alors, il y en a qui croient que les fils de Dieu, ici, on parlerait des croyants qui ont commencé à vouloir s'unir avec des femmes qui n'étaient pas des croyants. Alors ça, c'est une troisième ouais, c'est ça. Bien sûr, on pourrait donner beaucoup de détails parce que tous ceux qui ont cherché à développer que leur interprétation est correcte, bien entendu, ont développé ça avec beaucoup plus que ça. Là moi, je vous fais simplement vous donner les idées. Et il y a une autre position qui est un petit peu une position qui utilise une combinaison de ce qu'on vient de voir. Autrement dit, ils disent que ce serait des princes, autrement dit, on vient de dire que ça pouvait être des rois ou des hommes en autorité, mais des princes possédés par des êtres angéliques. On sait que la possession, ça c'est biblique, parce que le Seigneur nous en parle dans le Nouveau Testament. Alors on croit que ça pourrait être les fils de Dieu, des princes, donc des personnes qui étaient en autorité, qui avaient commencé à avoir vraiment des relations avec les êtres angéliques déchus, les anges déchus, au point qu'ils en devenaient possédés. Alors, qu'est-ce que ça fait une personne qui est possédée, qui a des rapports sexuels avec une femme qui n'est pas possédée? Ça, moi, j'avoue que c'est un domaine que je ne connais pas vraiment, mais les gens disent que ça pourrait que ça soit ça. Alors, voyez-vous, ça fait plusieurs... Alors, c'est pas facile de trouver la position exacte. Alors, ça serait soit des anges déchus, soit des chefs politiques, soit la lignée de Seth, donc des croyants qui se mariaient avec des incroyants, ou soit des princes qui pratiquaient le démonisme, qu'on pourrait dire, au point d'en être possédés et d'avoir des rapports sexuels avec des femmes. Il trouvait les femmes belles, puis ils les emmenaient chez eux autant qu'ils étaient capables d'en prendre. Alors, c'est quoi, qu'est-ce que ça donne au point de vue biologique? Est-ce que ça crée... Il y a plusieurs qui ont développé ça en disant les fameux géants, ça serait comme des déformations qui auraient été créées par ces rapports-là. Mais là, on peut-tu vraiment prouver ça? Pas plus qu'il faut, je crois. Là. Et il y a une autre interprétation, et l'auteur finit là-dessus, il dit celle que on est porté à lire le chapitre 6 à partir du verset 1, alors que lui dit qu'il faut absolument que tu l'interprètes à la lumière de ce qui a été dit dans le chapitre précédent, et il lui fait dire encore d'autres choses. Alors voyez-vous, c'est pas facile à préciser. Lui, ce qu'il dit, en parlant des princes qui auraient été possédés du démon à force de jouer avec l'occultisme puis jouer avec les rapports avec les démons, ces princes-là seraient devenus, auraient eu des rapports. Et lui, il termine, je ne vous lirai pas tout le développement, là, mais on va vous dire ce qu'il dit à la fin. Il dit, la descendance inhabituelle des princes possédés par des démons concorde avec des exemples plus récents de gens qui ont touché à ce domaine interdit. Avec la renaissance du paganisme dans la société moderne et l'usage répandu des drogues, ceux qui sont déjà dans le royaume de Satan se livrent de plus en plus à l'influence d'esprits mauvais. Et il termine par la phrase suivante, il dit, « Il est juste d'examiner cette interprétation du passage avec sérieux et de ne pas la rejeter avec désinvolture. » Alors, dépendamment de la position que vous choisissez, le texte des versets qu'on va lire, le reste des versets, bien sûr, va avoir une influence sur... Si vous dites que c'est la lignée de Seth, bien, vous allez tout simplement dire les croyants ont commencé à s'unir avec des incroyants. Si vous prenez l'interprétation que c'est des anges et qui ont eu, ou bien non, des princes qui étaient rendus possédés du démon, qui ont commencé à avoir des rapports avec les femmes, bien sûr, ça va avoir un autre sens. Alors, le Seigneur a commencé à voir la constatation de l'état de la corruption du monde dans le verset 2, dans le fait que les hommes n'ont pas commencé à vouloir regarder, de se prendre des femmes en fonction de leur spiritualité, autrement dit. Aujourd'hui, comme croyants, on le sait, nous, comme croyants, on se doit, si on veut se marier, de regarder avec qui on se marie. Parce que le Seigneur, il veut qu'on se marie dans le Seigneur. Alors, il veut qu'on se marie avec un croyant, sinon... Ça s'est vu à maintes et maintes reprises des gens qui n'ont pas obéi à ça, mais qui ont eu des problèmes extrêmement sérieux dans leur couple, dans leur famille. Et alors, on peut constater que les mariages de l'époque déjà étaient basés sur un mauvais principe. Quel principe? La beauté physique uniquement. Est-ce qu'on est encore aujourd'hui porté à faire ça? Comme croyant, on parle de croyant. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut choisir une épouse, son premier critère, c'est qu'il faut qu'elle soit belle? Physiquement. Ou son premier critère, ça devrait-tu d'être, il faut qu'elle soit belle spirituellement. L'un n'empêche pas l'autre, mais il faut que tu vérifies si elle est belle spirituellement avant de vouloir te marier avec. Alors, le mauvais principe, c'est de regarder uniquement la beauté physique. Alors, cette pratique-là, de choisir des femmes uniquement en fonction de leur beauté physique, ça l'a amené toute une série de problèmes de dégénérescence morale qui se sont manifestés dans la polygamie. Et on sait que la polygamie, je me souviens d'avoir déjà entendu un programme de télévision sur la polygamie qu'il y avait en Chine dans les années, là, vraiment longtemps, là, les chefs chinois. Là. Et ça l'amène une série de problèmes de jalousie, de meurtre. Ça l'amène énormément de problèmes à la polygamie. Parce que il y a toute une série de problèmes, de péchés qui se manifestent à l'intérieur de ça. Il y a les jalousies, il y a les convoitises insatiables aussi. On parle parfois de certains polygames, ils vont être rendus à 25 femmes, ils n'ont pas encore assez, ils envoient à une autre belle, viens-t'en, toi. C'est insatiable. Ils vont aller chercher autant de femmes qui sont capables. Ben, plus tu es riche, plus tu es puissant, plus tu pourrais éventuellement aller chercher le nombre de femmes que tu veux. Alors, ça l'amène, bien entendu, de la colère, ça l'amène des irresponsabilités, parce que bien souvent, la personne qui a 25-30 femmes va finir par avoir plein d'enfants. Pensez-vous qu'il va s'occuper d'élever ses enfants correctement avec autant de monde autour de lui pour autant d'enfants? On le voit dans l'Ancien Testament, des fois, il y avait certains rois qui avaient... combien de vraiment un et même il y avait un roi qui avait compris que la façon de ne pas avoir de problème avec ses enfants, c'était de leur donner beaucoup de femmes. Voyez-vous, il avait compris un principe. Il dit, si je lui donne bien des femmes à tous mes fils, ben ils vont tellement chicaner avec leurs femmes qu'ils ne chicaneront pas pour le pouvoir. Voyez-vous, il avait compris certains principes dès le départ. Alors, ça peut amener de l'irresponsabilité, ça peut amener de l'égocentrisme. Les mariages mixtes, les Écritures nous en parlent. Alors, si on adopte la position que les enfants de Dieu, c'est des croyants qui se marient avec des incroyants, alors ici, on assisterait à le début des mariages mixtes. Donc, les mariages de croyants avec des incroyants. Bien sûr, les Écritures nous enseignent, dans le Nouveau Testament, que c'est vraiment des sources de chute, de souffrance et d'infidélité spirituelle. Si quelqu'un viendrait vous voir, qui est un chrétien que vous connaissez, disons d'une autre ville, là, puis dirait « Hey, j'ai commencé à sortir avec quelqu'un, il est bien intéressant, il est instruit, il a de l'argent, il a ci, il a ça, il est beau, il est fin, il est intelligent. Puis là, vous lui demanderez est-ce qu'il est un chrétien, est-ce qu'il est sauvé? » La personne te dira, non, mais qu'est-ce que vous lui répondriez? Est-ce que vous auriez un verset dans le Nouveau Testament à aller lui montrer, conseiller très fortement de ne pas faire cela? Ce serait quoi votre verset? 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » C'est un verset qu'on se doit d'utiliser quand on connaît des gens autour de nous, soit un homme qui veut marier une inconvertie, ou soit une femme qui veut marier un inconverti, ou le verset qu'on va utiliser pour quelqu'un qui voudrait se partir en affaires avec un inconverti. C'est sûr que ça va se ramasser en problème. Et ça, là, c'est pas juste de la théorie. Moi, j'ai vu vraiment des cas concrets d'hommes. Non, Cornwall, c'était une femme. Une femme, une missionnaire qui a marié un homme qui était un inconverti. Vous auriez dû la voir. Cet homme-là, c'était la peste. Il était bel homme. Elle l'a marié, probablement, c'était fort probablement un de ses choix. Mais c'était de l'avoir. On était à l'école biblique, moi puis Lucie, elle était malheureuse, mais malheureuse, malheureuse. Ça faisait des années qu'elle était mariée avec, mais il n'y avait rien en commun. Comme ça dit, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il entre commun, entre la lumière, tu es lumière comme enfant de Dieu, et les ténèbres, lui est dans les ténèbres. Il n'y a rien, vous ne penserez pas pareil, vous ne parlerez pas pareil, vous n'aurez pas les mêmes goûts, vous n'aurez pas la même façon d'élever vos enfants, etc. On pourrait allonger la liste. Alors pourquoi la Bible nous dit qu'on ne se devrait pas de marier une inconvertie? C'est parce que c'est sûr que si on le fait, on va avoir un paquet de problèmes. La même chose que si un chrétien se marie avec se porte en affaire avec un inconverti, c'est sûr que tôt ou tard, on va avoir des problèmes. L'inconverti, il va dire, bien là, on ne paiera pas ci, on ne paiera pas nos impôts, passons dessus de la table, et vous, si vous êtes chrétien, vous dites, bien non, la chicane va poigner, c'est sûr et certain. Est-ce qu'il y a des exemples dans la Bible où Dieu nous montre que quand un croyant ou quelqu'un qui se disait croyant a marié des femmes non converties, que ça l'a amené des problèmes sérieux dans sa vie? Prenons l'exemple de Salomon, dans 1 Roi, chapitre 11, versets 1 à 4. Juste pour montrer des exemples. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. On sait, les Écritures disent qu'il en a eu 1000. Il aimait-tu les femmes, vous pensez, Salomon? 1000! Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hétiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous, elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Je ne veux pas dire qu'ils haïssaient. Entraîné par l'amour. Là, le verset 3, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. 700 plus 300, ça fait combien? 1000. 1000! Un roi qui avait 1000 femmes. Eh, mais, y avait-tu du choix, comme on dit? Et la fin du verset 3 nous dit un principe important, qu'est-ce que ces choses-là vont amener dans sa vie. Et ces femmes détournèrent son cœur. Le principe s'appliquait à l'époque de Salomon, continue à s'appliquer aujourd'hui, bien entendu. Et verset 4, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, avec un petit D minuscule avec un X. Autrement dit, tous ces peuples-là avaient toutes sortes de divinités. Fait que les femmes les entraînaient, Salomon, à aller vers leur divinité. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Alors, on voit l'exemple ici de Salomon qui a pris la voie de la polygamie et que les Écritures nous ont dit, Dieu avait dit, ils vont détourner ton cœur de l'Éternel. Les faits démontrent que c'est ça qui arrive. Un autre exemple de mariage mixte dans les Écritures. Esdras, chapitre 9, versets 1 et 2. On sait qu'il avait été en captivité. Il était revenu de la captivité. Et quand Esdras a vu les chefs, il y avait plusieurs chefs, beaucoup de monde du peuple qui avait commencé à adopter ces choses-là, et il s'est rendu compte, « Oh, mes amis, on est vraiment dans un piètre état spirituel. » Alors, dans Esdras, chapitre 9, versets 1 et 2, après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant, « Le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Hétiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. » Le peuple d'Israël était rendu qu'il avait marié des femmes de toutes ces nations-là. Qu'est-ce que Dieu avait dit qui arriverait? Il prendrait le cœur, il détournerait, il les emmènerait vers ces verses-là. Verset 2 dit, « Car ils ont pris de leurs filles pour eux de leurs filles des nations, pour eux et pour leurs fils, et ils ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays, et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Alors, Doc, ce qu'il est en train de dire, c'est que non seulement le peuple a embarqué là-dedans, mais les premiers, autrement dit, les chefs, c'est toujours les modèles, les exemples. Alors, les chefs ont été les premiers à tomber dans le panneau et à faire suivre le peuple dans leurs affaires. Et on sait que ce matin, on n'étudie pas Esdras, mais c'est juste pour démontrer que le principe que les croyants qui marient des incroyants, ça a toujours un résultat désastreux. Alors, on va, monsieur, dans le passage, dans un autre livre que j'utilisais, lui, il disait la phrase suivante, il dit, on peut établir un rapport direct entre le taux de divorce d'un pays et le caractère moral de cette communauté. Moi, quand j'étais jeune, je me souviens, j'avais 10 ans, dans toutes les maisons que je connaissais autour de chez nous, toutes les familles duraient longtemps. Il y avait des problèmes, bien entendu, il y a du monde, ça prenait un verre, il y avait toutes sortes de problèmes. Mais le monde, il y avait des familles stables. Regardez la situation, ça fait pas longtemps, là. J'avais 10 ans, donc on recule de 50 ans, à peu près, disons, en gros. Le 50 ans, il y avait de la stabilité dans la société. À cause que, ben, oui, les gens souffraient, mais ils s'enduraient. Aujourd'hui, on voit des gens, ça fait pas un an qu'ils sont mariés, qu'ils sont divorcés. Ça se divorce à tour de bras, et ça, la société, par les lois, par l'exemple, finit, on est rendu à plus que 50 % là, au Québec. Et quand il dit qu'on peut établir un rapport direct entre le taux de divorce et le caractère moral de cette communauté, il a vraiment raison. Parce que plus une société va tolérer, on va se ramasser avec des familles monoparentales, des pères qui ne s'occupent pas de l'éducation de leurs enfants, des pères qui ont 7-8 enfants de 7-8 femmes différentes, mais qui ne s'occupent pas d'aucune femme, qui ne s'occupent pas d'aucun enfant. Aujourd'hui, on voit ça à tour de bras. Alors, c'est bien sûr que les enfants qui sont élevés dans un milieu comme ça, ça va finir par se refléter dans leur éducation, dans leur moralité en général. Et la troisième constatation, dans les versets 3 et 4, c'est que le Seigneur constate qu'il y a un enlisement irréversible. S'enliser, c'est une affaire, mais des fois, quand on utilise les bons moyens, moi, je me suis déjà enlisé des fois, mais j'avais mes Traction Aid, et avec les Traction Aid, je finissais par m'en sortir. Mais ça peut arriver que tu sois enlisé au point ou que là, il n'y a plus rien à faire, personne ne va te sortir de là, et l'Éternel voit que la situation morale des hommes, la corruption, la dépravation est rendue à un point tel qu'il n'y a plus rien à faire avec ça, ils sont rendus trop loin. Donc, c'est de la dépravation irréversible. C'est ça qu'il dit dans le verset 3 et 4. Et là, ici, c'est une observation, une constatation. On dit la dépravation divinement constatée. Les quatre premiers versets, c'est vraiment Dieu qui constate une situation. Alors, le verset 3 à 4, « Alors, l'Éternel dit... » Alors, après quoi il dit ça? Il dit après qu'il a eu mentionné le fait que les hommes se mariaient uniquement sur la base du choix des femmes en fonction de leur beauté physique. Et non pas en fonction de « est-ce une croyante, est-ce pas une croyante? » Verset 3, « Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. » Autrement dit, il est en train de dire « l'homme qui n'est pas régénéré, c'est un charnel, son esprit n'est préoccupé que par les choses à la terre, par les choses ici-bas, par son propre plaisir égocentrique, et il ne s'occupe pas des choses de Dieu, il n'y a pas de crainte de Dieu, il n'y a pas d'obéissance de Dieu. » Et remarquez une chose, ici, encore une fois, on va faire l'affaire de 120 ans. Plusieurs se sont servis du mot 120 ans pour dire qu'il y avait eu 120 ans entre le moment où Dieu a constaté ça et le moment où Noé a fini de construire l'arche. Il y a deux interprétations. Ou ça veut dire ça, que ça a eu 120 ans à partir du moment où Dieu a constaté la situation et il a dit « Construis-toi une arche parce que je me propose de détruire », ou ça peut vouloir dire que Dieu, à cause de la gravité et de l'enlisement des péchés qui se produisaient à l'époque-là, Dieu a décidé de raccourcir le temps de vie des hommes qui étaient près de 1000 ans, 900 quelques années, puis de le réduire à 120 ans. Moïse est mort à quel âge? 120 ans. Dieu avait dit, alors, il y a encore là les interprétations, il y a plusieurs qui disent l'interprétation de 120 ans de l'époque où Dieu a fait la constatation, aller jusqu'au déluge, ça ne fonctionne pas apparemment. J'ai vraiment fait une étude approfondie avec des chiffres et de la chronologie. Mais il y en a qui disent que ça voudrait probablement plus vouloir dire que Dieu, à cause de la situation et de la gravité, en raccourcissant leur durée de vie, c'était un geste de miséricorde. Autrement dit, si tu vis dans la corruption, toutes les pensées du cœur de l'homme sont dans le mal, plus tu vas vivre longtemps, plus tu vas souffrir. Alors Dieu dit, on va réduire, là. Alors de plusieurs qui croient que ça veut dire que Dieu aurait réduit la durée de vie de 900, aux alentours de 900 ans en général, pour les premiers à 120 ans. Alors, la corruption est exprimée dans ce passage-là par la résistance aux influences divines, verset 3. Quand le Seigneur dit « Mon esprit ne restera pas dans les hommes », autrement dit, on le sait, Dieu, à cause de son influence, à cause de l'influence des croyants, à cause de l'influence de sa parole, à cause de l'influence de la conscience de l'homme, on le sait par à cause du Nouveau Testament qui nous dit que les hommes sont coupables, même s'ils ne sont pas des croyants, sont coupables à cause de la loi qui est inscrite dans leur cœur. Ils savent quand ils font le mal, mais ils font pareil. Alors, bien sûr, Dieu est en train de dire ici que son esprit ne restera pas toujours dans le sens qu'il n'exercera pas toujours l'influence bénéfique de la loi, de la conscience, pour empêcher l'enlisement et la corruption encore davantage des hommes. Et il a décidé de l'enlever, son influence, et il a décidé de détruire tout cela. Alors, le Seigneur fait preuve de miséricorde envers les pécheurs lorsqu'il travaille sur leur conscience pour restreindre le mal. Mais lorsque le pécheur s'acharne à résister, la rétribution divine consiste à laisser le pécheur aller dans ses voies. Et là, j'aime bien la manière que l'auteur que je me suis servi, il pose une question, et la question est la suivante. Que serait la condition morale du monde sans le ministère correctif et préventif du Seigneur? Tu sais, le Seigneur, il a un effet, il peut restreindre le mal. Mais l'auteur a dit, qu'est-ce que ce serait le monde si Dieu n'aurait pas cet effet restreignant sur le péché-là? Et puis là, il dit, aucune personne ne peut vraiment l'imaginer. Quand Dieu dit, je garderai pas mon esprit toujours parce que l'homme n'est que chair, et là, après ça, il parle de le faire vivre. Alors, la question tantôt du 120 ans, on vous les avait déjà expliqués, c'est soit qu'il donne, à partir du moment où il avertit, un délai, un sursis de 120 ans pour permettre la construction de l'arche. C'est ce qu'on va voir quand on va étudier l'arche. Parce qu'il y en a qui ont fait des calculs mathématiques. Ils ont dit, bon, il était Noé, ses trois fils, donc il était quatre hommes. On va dire que c'est les hommes qui faisaient ce travail-là. C'est du travail assez difficile, là. On parle de couper des arbres, on parle des écorcer, on parle des écarrir, et ça à une époque où on n'avait pas les outils d'aujourd'hui, là. Et c'est ce que je trouve, là, quand on va arriver à ça, on va regarder ça. Il y en a qui ont fait des calculs mathématiques, ils ont dit, disons qu'on réussit à couper un arbre de telle grandeur, on l'écorce, ça prend 4 jours, et ils ont calculé le nombre d'années que ça prendrait pour construire un navire des dimensions qui sont mentionnées dans les Écritures. Et on va voir que les années qu'ils trouvent, tout ça, et aussi la possibilité des animaux, et tout ça, c'est plein de bon sens. C'est juste que les libéraux ont tellement fait les gorges chaudes avec ces choses-là, que les croyants ont fini par quasiment penser, comme eux, que c'était un mythe. Alors, la question du 121, c'est soit un sursis que Dieu donne pour construire l'arche, ou soit que c'est Dieu qui dit, le mal est rendu tellement grand que je vais écourter leur durée de vie par miséricorde. Alors, bien entendu, les versets 4 nous parlent, ça dit, « Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et leur eut donné des enfants. Ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. » Et on voit que la signification probable, c'est que les hommes étaient centrés uniquement sur une chose, le pouvoir. C'était d'acquérir le pouvoir et de le maintenir par n'importe quel moyen. On parle de géants. Alors encore là, il y a des interprétations différentes. Qui étaient ces géants-là? Est-ce que c'était uniquement des personnes ou les produits d'union de femmes, de chefs qui étaient rendus possédés du démon? Si vous lisez plusieurs commentaires, vous allez rencontrer différentes explications. Mais la chose qui est fort probable que Dieu veut nous faire voir, c'est que les géants étaient fort probablement des hommes qui avaient uniquement une seule idée en tête, c'est celle du pouvoir, par n'importe quel moyen. La force brute, tu sais, c'était d'imposer. Un peu comme quand vous prenez les pays aujourd'hui qui sont dominés par des dictateurs, c'est comment ils réussissent à imposer leur volonté à des millions de personnes. C'est la force brute. Toi, tu parles contre moi, on te pogne, on t'emmène, on te fait de la torture, on te met en prison pour le reste de tes jours. Et on met des pressions sur ta famille. La force brute. Alors, on pense qu'à cette époque-là, la seule chose auquel les chefs, les grands militaires, parce qu'on parle dans le verset 4, on dit que c'était des hommes de renom qui furent fameux dans l'Antiquité. Alors, on pense vraiment que c'était vraiment l'idée que les hommes étaient dominés par l'idée du pouvoir à tout prix par la force brute. Alors, tout ça mélangé, on va arrêter là pour aujourd'hui, mais tout ça pour mélanger, c'est que démontrer que la situation de l'homme était rendue à un point tel que Dieu avait décidé, et il va dire à Noé, qui avait trouvé grâce à ses yeux, donc 8 personnes, imaginez-vous sur une couple de millions certainement, là, qui ont été sauvées parce qu'ils ont obéi à Dieu. Et encore là, construire un bateau de cette grosseur-là, alors qu'il était sur un continent, t'as même pas proche de l'eau. Alors j'imagine, tu sais, quand on dit que les gens étaient moqueurs, imagine les gens qui t'avertissaient que la fin t'achève, que Dieu t'a envoyé un déluge, puis tu fais ça pendant des années, les gens te voient monter ton bateau sur un terrain où il n'y a même pas d'eau proche, et le monde va dire « qui s'en va ton affaire et son bateau? Ça va que c'est ce qui... » Alors, bien entendu, ça démontre que ça prenait beaucoup de foi pour continuer à avertir les gens. Comme ça n'en prend pour nous aujourd'hui, d'avertir les gens qu'il y a un autre jugement. Le Seigneur a jugé son premier jugement, c'était par les eaux. Son deuxième, c'est par le feu. Et il nous dit qu'un jour, il va emmener le jugement. Et encore là, si vous dites ça aux gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire la même chose qu'ils ont fait avec Noé. Ils vont se moquer de vous. Mais est-ce que ce que Dieu avait promis à Noé, est-ce que ça s'est accompli? Oui. Alors, ce que Dieu promet à nous, d'avertir les gens qu'il y a un autre jugement qui s'en vient, ça va arriver la même chose. Alors, on va terminer là-dessus.